Vous écoutez France Culture.
Une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous. Yasunari Kawabata, 1899-1972. Nouveau rendez-vous au parfum d'érotisme, aujourd'hui dans Une vie, une œuvre, dans la compagnie de Kawabata et de ses frissonnantes belles endormies. Premier écrivain japonais à obtenir le prix Nobel de littérature en 1968 pour son roman Pays de neige, Kawabata était cet orphelin solitaire qui cultivait dans ses livres la tristesse et la beauté, le désir et la pureté meurtrière. Auteur à la prose contemplative et ambiguë tournée vers l'imaginaire et que Mishima reconnaissait comme son maître, Kawabata déclara un jour « Tout artiste est fatalement hanté par le désir de forcer l'accès difficile du monde des démons. » Et cette pensée, qu'elle soit apparente ou dissimulée, hésite entre la peur et la prière. Yasunari Kawabata, un documentaire de Françoise Esteb et Nathalie Salle.
Yasunari Kawabata, 1899-1972.
Il laisse un manuscrit inachevé dans lequel il y a un moine zen qui recopie toujours la même phrase. Et cette phrase, c'est « Il est facile d'entrer dans le monde du Bouddha, mais bien plus difficile d'entrer dans le monde des démons. » Et c'est une phrase qu'il prononce lors de son discours de réception au Nobel, en y ajoutant « Tout artiste aspirant au vrai, au bien et au beau comme objet ultime de sa quête, est fatalement hanté par le désir de forcer cet accès difficile du monde des démons, et cette pensée apparente ou secrète hésite entre la peur et la prière. »
Ramasser des ossements.
Il y avait deux étangs dans cette vallée. L'un, en bas, brillait comme empli d'argent fondu. L'autre, en haut, d'un vert de mort, entraînait dans ses profondeurs l'ombre silencieuse des monts. J'avais le visage poisseux. Je me retournais. Il y avait du sang là où je m'étais frayé un chemin, au milieu des fourrés et des bambous nains. Et ses gouttes semblaient prêtes à se mettre en mouvement. Le sang s'échappait à nouveau de mon nez en vagues d'une chaleur douceâtre. Je bouchais en toute hâte mes narines avec mon hobby. Je me couchais sur le dos. Le soleil ne dardait pas directement ses rayons sur moi, mais l'envers des feuilles, baigné de lumière, m'éblouissait. Le sang, arrêté à mi-chemin de mes narines, refluait de manière sinistre. Il gargouillait à chaque respiration. Les cigales saturaient les montagnes de leur stridulation. Elles s'étaient mises à crier soudain, comme sous le coup de la surprise. C'était une fin de matinée de juillet si précaire que la simple chute d'une aiguille pouvait provoquer un éboulement. J'étais comme paralysé. À demeurer allongé jusqu'à ce que la sueur perle sur ma peau, le vacarme des cigales, la frondaison oppressante, la moiteur de la terre, les battements de mon cœur convergeaient vers un point de ma tête pour s'y figer. Pour, à peine figé, se défaire et se disperser. J'avais le sentiment d'être aspiré vers le ciel.
René Tsekati, quand Kawabata parle du monde des forces obscures, quelles sont ces forces obscures?
C'est probablement l'inconscient. L'œuvre de Kawabata est probablement une des œuvres les plus psychanalytiques, entre guillemets, de la littérature japonaise.
Eh bien, ce monde des démons, je pense que c'est...
Diane de Margerie.
C'est le mal, c'est la transgression. Le mal a toutes sortes de visages, précisément les démons, c'est ce qui hante l'homme, c'est le fantasme, mais c'est aussi ce qu'il aspire, c'est la base de ses livres. Donc, je veux dire, c'est à la fois la transgression et l'inspiration.
Kawabata, dont nous avons entendu la voix, racontait dans cet entretien de 1968 à quel point les tourments de son enfance avaient durablement marqué son existence et, pourrait-on ajouter, son écriture. Son enfance solitaire, fracturée de deuil, d'absence, de silence, a engendré un univers mental et romanesque très singulier. Les écrits de Kawabata apparaissent comme des tissus à la trame complexe, fragmentée, troué de silence et d'ellipses. Ces récits, souvent laissés en suspens, demeurent incertains et ambigus. Entre tradition et modernité, Kawabata bouleverse les codes littéraires. Entre réel et irréel, il brouille les temps et superpose les mondes. Il nous paraît important de se référer à sa biographie pour décrypter son univers. Cécile Sakai.
Dans le cas de Kawabata, nous avons une relation absolument intime, me semble-t-il, entre la représentation littéraire qui se déploie dans l'œuvre de Kawabata et effectivement son expérience personnelle. C'est celle de l'orphelin absolu, de celui qui n'a pas connu ni son père ni sa mère, qui sont décédés de tuberculose lorsque l'enfant avait 6 mois, 1 an. Qui a été élevé par ses grands-parents, dont la grand-mère est décédée lorsque Kawabata n'avait que 5 ans, c'était un petit enfant, et le grand-père, qui est resté donc le seul à veiller sur son petit-fils, est lui-même décédé lorsque le jeune Kawabata avait 16 ans.
Il a perdu sa sœur également.
Absolument, il avait une sœur de 4 ans, son aînée, qui était confiée à une autre famille dès le moment où la famille a perdu donc les parents. Et cette sœur est également décédée d'une tuberculose. Ces drames, ces tragédies se sont déroulées autour des années 1900 à 1910, à une époque où on ne savait pas soigner, combattre cette maladie, le paradoxe étant que le père de Kawabata était médecin lui-même. On peut rappeler qu'en outre, son grand-père était aveugle et qu'il s'agissait donc d'une vie en commun avec une personne qui ne voyait pas. Et il y a dans les thématiques abordées par Kawabata tout un ensemble qui tourne autour du regard qui perçoit et qui ne perçoit pas en même temps, de celui qui est vu et qui ne se sait pas regarder. Tout ce qui est essentiellement descriptif chez Kawabata repose sur des dispositifs du regard.
Oui, parce que dans son œuvre, le regard est toujours indirect, réfracté, il y a des jeux de miroir, enfin, comme si la réalité ne pouvait pas être regardée en face, d'une certaine façon.
Tout à fait, je pense que l'univers de Kawabata est un univers qui est détourné, qui est décalé. Il est difficile de le qualifier d'ailleurs d'une seule façon parce que ce qui est l'art de Kawabata, c'est ses multiples façons de diffracter en effet la réalité. La plupart du temps, cela passe par le regard, par des dispositifs par exemple spéculaires. Le miroir, cela est bien connu dans Pays de Neige, joue un rôle tout à fait majeur dans des scènes centrales donc du roman. Mais dans d'autres récits de Kawabata, nous aurons par exemple l'ouïe, ce que l'on entend et ce que l'on ne comprend pas, qui va jouer donc un rôle très important. Certains des récits de la paume de la main, ces récits très courts que Kawabata a continué d'écrire depuis ses débuts, depuis les années 1926-27, jusque pratiquement la fin de sa carrière littéraire, c'est-à-dire jusque dans les années 1965-66, comprennent un certain nombre de récits tout à fait magnifiques, dans lesquels sont cristallisées ces thématiques du regard impossible.
Ce qui frappe tout le monde qui observe Kawabata, c'est son regard.
Bunkichi Fujimori.
C'est un regard très déconcertant au début, parce qu'il a de ses yeux qui vous transpercent dès la première rencontre. On a l'impression qu'il vous observe. Mais dans l'œil, vraiment, personne, n'est-ce pas? On voit que, dès le premier coup d'œil, il essaye de voir la nature profonde de son interlocuteur. Alors, on est glacé, dans le premier instant, par cette sévérité apparente de ce regard. Mais au bout de quelques minutes, on s'aperçoit, avec étonnement d'ailleurs, qu'il y a une chaleur humaine qui est cachée derrière ce regard. Et on s'aperçoit aussi que ce regard perçant n'est qu'une manière pour lui de se situer par rapport à l'autre.
Il avait une attitude assez particulière lorsqu'il était donc adolescent, face à son grand-père aveugle. Son grand-père était assis, Kawabata installait un tabouret, s'asseyait sur le tabouret et pendant de très longs moments scrutait le visage de son grand-père. Mais alors, que cherchait-il à voir, à percer dans ce visage? Ou à travers ce visage plutôt?
Alors, je pense qu'il y a chez Kawabata une interrogation profonde sur la difficulté, voire l'impossibilité de la communication entre les êtres humains. Et cette contemplation d'un visage marqué par un regard aveugle, qui est en effet décrite par exemple dans le journal de la 16e année, qui est un journal qu'il a tenu en tant qu'adolescent, puis qu'il a réécrit par la suite dans le cadre d'une publication, qui est un journal d'une beauté extraordinaire, tout à fait poignante, puisque c'est le huis clos entre ce vieillard à l'agonie et le jeune garçon, le petit-fils, qui veille sur ses derniers jours. Ce jeune garçon est décrit dans toutes les contradictions, ses sentiments de révolte aussi qui le traversent.
De dégoût également.
Et de dégoût, face à ces scènes qui se succèdent et qui sont toutes plus terribles, plus horribles les unes que les autres. Et finalement, l'on sent malgré tout un attachement très très grand pour cette dernière figure familiale qui veille sur son sort. Mais en même temps, ce regard porté sur un visage aveugle, si je puis dire, je pense qu'il est en quelque sorte l'emblème de ce qui était l'attitude de Kawabata vis-à-vis du monde. C'est un regard qui voit sans voir. C'est un paradoxe, bien entendu. Kawabata était un écrivain qui aimait mettre en scène ses paradoxes, ses antithèses. Il n'y a, pour ainsi dire, dans les œuvres de Kawabata, jamais de véritable entente. L'idée d'un « ensemble », entre guillemets, d'un « cœur », entre guillemets, est absente. C'est toujours l'individu seul, qu'il soit narrateur, qu'il soit personnage principal, qu'il s'agisse d'un homme. En général, ce sont donc des hommes qui sont des témoins de ces histoires, ou qu'il s'agisse d'une femme, elles sont en général portraiturées dans les romans de Kawabata, sont tous des personnages qui sont en proie à leur solitude, qui est peut-être leur essence absolue aux yeux de Kawabata. Donc en quelque sorte, un jeune garçon qui observe pendant des heures son grand-père aveugle, en sachant que son grand-père ne le voit pas, mais peut-être le devine. C'est, je pense, une scène tout à fait emblématique de l'œuvre de Kawabata.
Et dans ce journal de la 16e année, nous avons affaire à un premier Kawabata, c'est-à-dire très très réaliste et assez féroce pour décrire la vieillesse de ce grand-père, qui d'ailleurs avait des idées tout à fait curieuses, fantasmatiques, à savoir que une maladie le dévorait de l'intérieur, qui était très très intéressé par tout ce qui est médiumnique, enfin...
C'était une bête qui le dévorait.
Voilà,
de l'intérieur.
C'était une bête qui le dévorait et qui le rendait d'ailleurs extrêmement tyrannique avec la jeune personne qui devait s'occuper de lui et surtout avec ce petit garçon de 9 ans. C'est terrible parce que le grand-père exigeait de cet enfant une compréhension d'infirmière, Par exemple, il y avait pour l'enfant une situation effroyable, c'était de le faire uriner dans un urinoir, et ça lui a donné un certain dégoût de la chair, qui à mon avis est resté très prégnant dans toute sa vie. Et alors, dans ce journal de ma 16e année, il décrit son grand-père, évidemment c'est assez féroce. Mon grand-père est comme un vieux kimono usagé, tout défraîchi et plein de gros plis. Sa peau est dépourvue de toute élasticité. Quand on lui pince la chair, elle reste telle qu'elle. Je ne sais plus que faire. Aujourd'hui, il ne me dit que des choses qui m'énervent et son visage a l'air de plus en plus inquiétant.
Je pense que cette enfance solitaire de Kawabata, cette confrontation immédiate à la mort
et à la vieillesse,
la conduit d'emblée à mettre côte à côte la vie et la mort. Il est absolument évident que c'est une œuvre qui est marquée par une obsession de la mort, une obsession qui est si intimement liée à l'inspiration en tant que telle qu'elle en devient une dynamique. Donc, cela contrarie bien sûr les dichotomies que l'on installe généralement entre la vie et la mort. Les deux pôles de l'existence chez Kawabata sont liés toujours. Et cela d'emblée, c'est ce qui, je pense, caractérise donc son univers.
Mais Kawabata était hanté toute sa vie par la figure de ses parents disparus.
C'est certain que ça a énormément chargé sa vie et qui est aussi une des raisons de son rapprochement de Mishima. Et probablement, c'est toute cette violence contenue qu'il y a en Kawabata. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il lui donne une forme très détournée. Contrairement justement à Mishima, qui a une œuvre beaucoup plus violente, et ou Tanizaki. Tanizaki a une perversion, disons, très exprimée, très explicitée, alors que Kawabata, non. Kawabata a une œuvre beaucoup plus feutrée, et où les événements, même Yamanoto, le grondement de la montagne, est un livre qui est... qui est habité par des situations limites, hein, presque incestueuses, mais toujours avec une certaine réserve. C'est ça qui est très étonnant, parce que la violence n'est jamais exprimée ni même dans les dialogues. Quand on voit les dialogues, ils sont très simples.
Mishima.
Je pense que M. Kawabata est un artiste qui connaît toutes les subtilités de l'art, qui sait employer la force sans forcer. Comme dans le kendo, mon art préféré, ce que l'on nomme la garde sans la garde. Dans l'œuvre de M. Kawabata et dans sa vie, c'est très efficace et personne ne peut l'imiter.
Shinigao no dekigoto.
1925. Le visage de la morte.
Goranasete kudasai. Konna ni narimashita. Donna ni hitome aitagatte orimashita koto ka. Aatadashiku kare o sono heya ni michibite kite, tsuma no haha ga itta. Shinin no makurabe no hitobito wa hitotoki ni kare o mita. Atte yatte kudasai.
Il ôta le linge blanc. Une expression de souffrance marquait les traits durcis du visage de la morte. Ses dents ternies jaillissaient entre deux joues terriblement creuses. La chair de ses paupières desséchées adhérait au globe oculaire. Sur son front, les nerfs apparents avaient comme gelé la douleur. Les yeux baissés sur ce visage hideux, il resta assis quelque temps, sans bouger. Puis, ses deux mains, saisies de violents tremblements, se tendirent vers les lèvres de sa femme pour tenter de lui fermer la bouche. Or, dès qu'il relâcha ses lèvres fermées malgré elles se rouvrirent, lentement. Il les ferma à nouveau, elles se rouvrirent. Il finit pourtant par voir qu'à force de répéter ce geste, les lignes dures, du moins autour de sa bouche, s'étaient radoucies. Alors il sentit que toute sa passion s'était concentrée au bout de ses doigts. Il se mit à frotter son front avec vigueur dans l'espoir d'assouplir les nerfs figés du visage de la morte. ses paumes en devinrent brûlantes. Ensuite, il demeura assis, immobile, à contempler ce visage rénové d'avoir été trituré dans tous les sens. La mère et la sœur cadette de sa femme entrèrent dans la chambre. Soudain, la mère s'écria, les joues inondées de larmes.
L'âme humaine est effrayante. Elle ne se résignait pas à mourir tant que vous ne seriez pas revenu de voyage. Comme c'est étrange. Pensez qu'avec un regard, vous avez donné à son visage cette tranquillité. Voilà qui est bien. Voilà qui doit la satisfaire.
Il avait les yeux hagards. Des yeux que la sœur de sa femme fixa à son tour avec son regard d'une beauté et d'une pureté comme il n'en existe nulle part au monde.
Par la suite, donc, dans son journal de l'adolescent, il racontera tout à fait l'envers de cette mort du grand-père, c'est-à-dire son amour pour un jeune garçon qui s'appelle Kyono, un jeune garçon du lycée, sa jalousie des autres. Et toute cette adolescence est très ambiguë, avec une sorte d'énorme frustration. C'est lui qui emploie d'ailleurs ce mot de frustration. Et à mon avis, c'est ça qui l'a fasciné chez Mishima, c'est que Mishima, dès le début, avec sa confession d'un masque, loin d'être frustré, affirme son enfance et la violence de son enfance, lui qui a été élevé par sa grand-mère, et lui qui, dès sa jeunesse, éprouve des sentiments tout à fait sensuels pour un garçon très beau qui est un vidangeur. Et donc, il y a un contraste extrême qui les a attirés, à mon avis, l'un vers l'autre. C'est-à-dire que Mishima est une sorte de double, mais qui va à l'extrême, alors que Kawabata reste dans l'évanescence, le fantasme et le rêve.
Cet indice de homosexualité dit beaucoup de choses sur sa nature profonde.
Bunkichi Fujimori.
On se demande si Kawabata était vraiment quelqu'un qui était capable d'aimer au sens intégral du terme. La réponse doit être non.
Et alors, il y a un texte très, très intéressant dans l'adolescent qui s'appelle « Lettre à mes parents », où on voit que toute cette expérience de la mort du grand-père est sublimée. Alors, il écrit « Une famille où la génération des parents ayant été évincée, grands-parents et petits-fils se trouvent intimement mêlés. »
Et comme plongé dans le vide d'une maison isolée de tous. Et un petit-fils élevé ainsi est beaucoup plus pur qu'un enfant élevé par ses parents. Mais une fois lancé dans le monde, sa peau sera couverte d'égratignures. Père et mère, qui avaient fait de moi l'enfant de mon grand-père, ne m'avez-vous pas transmis un sang très pur, à moi, qui oscille dans le monde de l'évanescence ? Si dans votre tombe obscure, vous éprouvez, là de mes propos, quelque pitié pour moi, si j'écris pour vous cette lettre peu virile adressée à un cimetière, c'est parce que personne au monde n'a plus que vous le don de me plonger dans l'extase du néant.
De me plonger dans l'extase du néant.
Alors l'extase du néant, comment faut-il...
Bien, l'extase du néant correspond à ce qu'il appelle le vide, c'est-à-dire le rien, puisqu'il finit cette lettre à ses parents en disant « Dormez en paix, parents défunts, vous qui n'avez laissé à votre fils aucun moyen de se souvenir de vous ». Donc, si on veut, il est plongé dans le vide de la mort. Mais ce n'est pas du tout notre vide occidental. C'est un néant qui le met en communication avec l'au-delà et avec les morts qui sont pour lui des vivants.
René Tsekati, très souvent chez Kawabata, il y a le brouillage des temps et le brouillage des sentiments également.
C'est l'ambiguïté des relations, c'est-à-dire où les relations sont habitées en effet par à la fois par un désir et par une volonté de destruction, c'est vrai, entre les personnages, et le brouillage des temps, aussi le brouillage des générations également, jamais un personnage n'appartient totalement à sa propre génération, parfois même le brouillage des sexualités, où il y a des ambiguïtés entre les femmes, enfin plus homosexualité féminine d'ailleurs que masculine, où il y a quelque chose qui est extrêmement trouble entre les êtres.
Il y a le thème de l'inceste également, ou du simili-inceste qui revient très souvent chez lui, comme par exemple dans Nuée d'oiseaux blancs, où l'on voit le personnage principal qui va avoir une relation sexuelle avec la maîtresse de son père décédé, puis avec la fille de cette femme, une fois que cette femme se sera suicidée. Donc là, on a complètement un voyage complet avec un double inceste symbolique.
C'est étrange parce que on retrouve des situations tout à fait parallèles dans plusieurs romans de Moravia. Et je pense que beaucoup d'écrivains ont cette obsession de prendre la place du père, et pas uniquement par rapport à leur personnage, mais comme une manière de rompre la fatalité qui consiste à devoir à une autre génération son existence.
La mère de Kawabata avait été mariée en première noce au frère aîné de son époux, de son deuxième mari, le père de Kawabata. Alors ça, Diane de Margerie, ce n'est pas anecdotique, parce que dans les romans de Kawabata, il y a des intrications familiales extrêmement complexes, et cela revient constamment.
C'est vrai. C'est d'autant plus vrai qu'il y a une des nouvelles, d'ailleurs, que je préfère, qui s'appelle « La lune dans l'eau ». C'est dans La danseuse d'Isu. Et c'est l'histoire d'une femme qui a été mariée deux fois, qui a eu un mari très malade. Et pour qu'il puisse vivre une vie vivante, si j'ose dire, elle lui montrait le monde à travers un miroir. Et Kawabata raconte, à la fin de sa vie, son mari ne s'était pas contenté de contempler le potager de sa femme, mais aussi le ciel et les nuages, la neige, les montagnes lointaines. Il avait observé la lune et regardé les fleurs des champs et les oiseaux migrateurs. La jeune femme s'émerveillait de la richesse, de l'immensité du monde, reflétée dans ce qu'elle avait considéré jusqu'alors comme un simple objet de toilette pratique pour se coiffer la nuque, et qui avait ouvert à l'invalide cette vie nouvelle. Kyoko s'asseyait souvent à son chevet, et tous deux plongeaient ensemble leurs regards dans le miroir. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que donc elle garde ce miroir, et souvent, lorsqu'elle est avec son deuxième mari, ce qu'elle voit, c'est la vie d'avant. Donc, je pense que peut-être Kawabata s'est posé la question de comment les deux vies de sa mère s'étaient agencées. C'est très possible. Et dans cette nouvelle « La lune dans l'eau », Kyoko, qui regardait dans le miroir, va voir son ancienne maison, et elle est enceinte de son nouveau mari, et la question qu'elle se pose est celle-ci. « Que deviendrai-je si l'enfant vous ressemble ?» Elle parle aux morts, murmura-t-elle, tout étonnée des paroles qu'elle prononçait. Alors elle revint sur ses pas, dans un sentiment de chaleur et de paix. C'est donc la communication avec les morts qui, loin d'être un vide, est une sorte de vie parallèle.
Thank you.
C'était un jeune homme extrêmement cultivé qui a réussi le concours d'entrée à l'université impériale de Tokyo, qui était la meilleure université japonaise, qui l'est toujours d'ailleurs, et qui signifiait que l'on entrait dans le sein des saints des élites japonaises. Donc, de cette enfance tout à fait malheureuse, tout à fait solitaire, Kawabata franchit une étape en entrant donc à l'université de Tokyo.
On peut distinguer plusieurs périodes dans la vie d'écrivain de Kawabata, Cécile Sakai, parce qu'il a écrit pendant une cinquantaine d'années. Son œuvre fait 37 volumes.
Kawabata a donc une œuvre qui s'insère donc dans le XXe siècle, pleinement, entre 1925 et 1970 à peu près. Il y a, oui, un certain nombre d'étapes qui ont été franchies. Je dirais qu'il y a cette étape des tout premiers écrits. Je rappellerai que le journal de la 16e année ou bien Ramasser des ossements sont des œuvres qui ont été écrites vraiment par le jeune Kawabata sur un cahier lorsqu'il était adolescent, lorsqu'il était dans cette expérience d'une solitude absolue, œuvres qui ont été réécrites par la suite par l'auteur devenu adulte, mais il y a là bien sûr une expérience fondamentale qui est déjà racontée. Ensuite, vous avez cette expérience avec cette communauté des jeunes écrivains audacieux, modernes, des nouvelles sensations, en phase bien sûr avec le dadaïsme, le surréalisme, et puis ensuite un petit peu plus tard avec les flux de conscience de Joyce notamment, influence que l'on retrouve chez ces écrivains et chez Kawabata directement. Par exemple, « Illusion de cristal », qui est une nouvelle publiée en 1931, est tout à fait une sorte de, je ne dirais pas du tout d'application, de recréation de cette question du flux de conscience à travers un texte qui est pratiquement en flux continu autour d'une jeune femme mariée à un vétérinaire et qui, tout au long du récit, raconte les différents événements, ses tourments, ses sentiments, son adoration pour son chien, toutes sortes de choses absolument hétérogènes qui viennent s'entremêler dans une sorte de récit dont on ne sait pas trop quoi penser, sauf qu'il s'agit d'un texte véritablement expérimental. Assez rapidement, Kawabata va se détacher de ce groupe ensuite pour s'intéresser pour quelques années, un quartier de la ville de Tokyo, Asakusa, qui était un quartier, là encore, représentatif d'une certaine ouverture japonaise. C'est un quartier populaire dans lequel se sont installés des théâtres, des music halls, un quartier extrêmement vivant, extrêmement mélangé.
Le quartier des plaisirs.
Le quartier des plaisirs, qui a servi de trame de fond pour plusieurs des romans de Kawabata, dont on disait qu'il aimait beaucoup se promener là, rester là des heures, passer les nuits dans ces quartiers pour y observer les êtres et les choses qu'il racontait ensuite dans ses récits.
Yasunari Kawabata à propos du tremblement de terre à Tokyo en 1923.
J'étais allé en ville et j'ai vu beaucoup de cadavres entassés. C'était à Yoshihara, le quartier où se trouvaient les maisons closes. J'étais avec Akutagawa Ryunosuke, qui a débuté sa carrière littéraire avant moi. À Yoshihara, les prostituées étaient très nombreuses. Au milieu du quartier, il y avait un étang où beaucoup de prostituées ont tenté de se réfugier pour se protéger. Mais elles y sont mortes. Elles étaient en sous-vêtements de couleur rouge, comme l'étaient les prostituées. Dans l'étang, elles étaient toutes mortes.
Ce qui m'a beaucoup frappé, comme ça, en revoyant ses livres, c'est le temps qu'il prenait pour les écrire. Parce que parfois, c'est 10 ans. Le grondement de la montagne, par exemple, il l'a écrit de 49 à 54. C'est-à-dire qu'il reprend toujours ses textes. Il ne les a jamais terminés. Il y a une sorte d'inachèvement sexuel qui se projette dans un goût exagéré de l'achèvement littéraire, avec un goût prononcé pour la poésie, pour la perfection de la poésie.
Pays de neige.
国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。 夜の底が白くなった。信号所に汽車が止まった。
Un long tunnel entre les deux régions, et voici qu'on était dans le pays de neige. L'horizon avait blanchi sous la ténèbre de la nuit. Le train ralentit et s'arrêta au poste d'aiguillage. La jeune personne, qui se trouvait assise de l'autre côté du couloir central, se leva et vint ouvrir la fenêtre devant Shimamura. Le froid de la neige s'engouffra dans la voiture. Penchée à l'extérieur autant qu'elle le pouvait, la jeune personne appela l'homme du poste à pleine voix, criant au loin.
Est-ce que l'on pourrait dire, Cécile Sakai, que Pays de neige est un roman d'initiation ?
Je pense que le train, effectivement, nous amène dans un autre monde. C'est le monde de l'adultère, c'est le monde du rêve, c'est le monde de la neige. Et s'il correspond évidemment à un passage transgressif, il est aussi pour le lecteur une invitation à un univers qui est tout à fait singulier, dans lequel le réel et l'irréel se côtoient constamment.
Kawabata met le lecteur dans une situation de rêverie. Le lecteur entre avec son personnage de l'autre côté du tunnel et il sait que le monde va être autre. C'est une station thermale où la vie est très particulière et où il y a des geishas qui aident les patients ou les clients à passer leur temps le plus agréablement possible en oubliant leur famille. Ce que dit à un moment le personnage, il dit qu'il n'a même pas habité par la culpabilité d'avoir laissé sa femme et ses enfants. Donc c'est un monde complètement artificiel et un monde où toutes les situations même climatiques ont un sens. Et donc c'est à la fois un monde complètement dépouillé et un monde surchargé de signification. Donc le pays de neige, bien sûr, c'est aussi le pays de la pureté, c'est-à-dire une pureté à laquelle aspire le personnage et qu'il va trouver de manière complètement paradoxale auprès de deux prostituées, auprès de deux geishas, dont l'une va aller jusqu'à périr dans les flammes et l'autre essayer de la sauver vainement. Et on ne sait rien du personnage principal, Shimamura. On sait simplement que c'est un critique de danse. Et le lecteur va pouvoir complètement s'identifier à la relation qu'il va avoir avec les deux femmes, les deux geishas. Et ça, c'est une attitude de romancier extrêmement forte.
On ne sait rien non plus de ces deux femmes.
De ces deux femmes, on sait très peu de choses. On sait simplement qu'elles sont liées par un homme qui s'appelle en plus Yukio. En japonais, Yuki, c'est la neige, mais ça s'écrit différemment. Le nom Yukio s'écrit différemment, mais un lecteur japonais, évidemment, fait le lien phonétique avec... Et cet homme meurt, au début du livre, il est malade, il meurt, et les deux femmes sont liées à lui, l'une d'une manière amoureuse, et l'autre, on ne le sait pas, peut-être sacrificielle. C'est énigmatique parce que les personnages, on sent que les personnages ne sont pas simplement des personnages ordinaires d'un roman, parce qu'il y a eu, vous savez, comme c'est un roman mythique au Japon, il y a eu plusieurs thèses. La temporalité de ce livre est extrêmement étrange. Et certaines personnes pensent que Komako et Yoko sont en fait la même femme, sont deux étapes de la même femme. De même que Shimamura pourrait très bien être le fantôme de Yukio, celui qui meurt au début du livre. Parce qu'en fait, le moment où il entre dans ce monde du pays de neige qui pourrait être un pays de rêve, il n'est pas certain que ce soit le début réel du roman. Ça pourrait être un retour, en fait, du mort qui observe le monde.
Sur le fond, très loin, défilait le paysage du soir, qui servait en quelque sorte de teint mouvant à ce miroir. Les figures humaines qu'il réfléchissait, plus claires, s'y découpaient un peu comme les images en surimpression dans un film. Il n'y avait aucun lien, bien sûr, entre les images mouvantes de l'arrière-plan et celles plus nettes des deux personnages. Et pourtant, tout se maintenait en une unité fantastique, tant l'immatérielle transparence des figures semblait correspondre et se confondre au flou ténébreux du paysage qu'enveloppait la nuit, pour composer un seul et même univers, une sorte de monde surnaturel et symbolique qui n'était plus d'ici. Un monde d'une beauté ineffable et dont Shimamura se sentait pénétré jusqu'au cœur, bouleversé même, quand d'aventure, quelques lumières là-bas, au loin dans la montagne, scintillaient tout à coup au beau milieu du visage de la jeune femme, atteignant à un comble inexprimable de cette inexprimable beauté.
C'est une apparition, en quelque sorte.
C'est une apparition et une sorte de fantôme, pourrait-on dire, car cette inexprimable beauté, c'est peut-être celle des morts, de ceux qui sont morts, de ceux qui sont disparus. On ne sait plus si on a affaire à des personnages en chair et en os, ou à des images, ou à des fugaces apparitions de personnes qui sont revenues un instant dans le monde des vivants.
Dans ce livre, il y a des amateurs de no qui viennent dans l'auberge et dont on entend leur chant à travers la cloison. Et on se dit que évidemment, Kawabata a été influencé par le no, où le retour du fantôme occupe toujours la place centrale. Et on peut aussi lire ce livre comme une sorte de livre no, de roman no, si on peut dire, avec une visite du mort lui-même.
Kaori Kawabata, mari de la fille adoptive de Kawabata.
Vu de l'étranger, je pense que les œuvres de Kawabata peuvent sembler très spéciales. Leur structure, leur construction, leur forme ne sont pas très nettes. C'est-à-dire que l'auteur peut très consciemment commencer son récit n'importe où et le terminer à n'importe quel endroit. Le récit terminé, on a l'impression que même à la fin, il reste en suspens. Kawabata a nommé cela « envie de continuer ». Pays de neige en est l'exemple typique. Le récit semble terminé, mais il peut reprendre encore et encore.
Il y a un véritable fil conducteur, une véritable obsession autour de cette œuvre, qui va l'amener d'ailleurs à écrire et réécrire plusieurs fois les chapitres publiés dans différentes revues, jusqu'à arriver à une version qui sera considérée comme la version authentique, qui date seulement de 1948.
Le blanc, c'est la couleur de l'univers de Kawabata, la blancheur spectrale.
En tous les cas, c'est la couleur de Pays de neige, c'est sûr, mais pas uniquement. C'est le dépouillement. Donc, Kawabata a une particularité parmi beaucoup d'autres, mais enfin, il en a une par rapport aux autres écrivains japonais, c'est que il va droit à l'essentiel, à la fois dans son style et dans ses préoccupations qui sont extrêmement obsessionnelles. Et donc, il est certain qu'il quand il met une situation en scène, il la réduit vraiment au maximum, c'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir des éléments uniquement signifiants et sur un fond, en effet un fond blanc. C'est le fond sur lequel il peut dessiner ses personnages. Il ne prend des personnages que ce qui va être absolument nécessaire à la situation qu'il va décrire pour faire naître une scène extrêmement forte.
Qu'est-ce qui fait le mystère des romans de Kawabata, du point de vue de l'écriture peut-être ?
Je pense que c'est la simplicité de la narration et sa profondeur, c'est-à-dire que c'est un écrivain très très limpide. C'est un, je dis souvent que Cabata fait partie des écrivains de la ligne claire, comme il y a la ligne claire même s'il parle de forces obscures, mais je veux dire ligne claire dans la narration, comme il y a cette école pour la bande dessinée. Cabata, c'est comme ça. C'est très très net. C'est une narration extrêmement nette et ça n'enlève pas du mystère. Au contraire.
Mais elliptique, nette, mais très elliptique.
Mais elliptique, bien sûr.
Avec des silences.
Avec des scènes qui ne sont pas décrites. C'est-à-dire qu'il y a des moments très forts qui ne sont pas décrits, mais dont on voit l'effet sur les personnages. Et c'est probablement ça qui donne autant d'intensité à la construction romanesque et autant de présence aux personnages.
Je dois dire qu'une des nouvelles de Kawabata que je préfère, ça s'appelle Bestiaire. C'est dans La danseuse d'Izu. Et c'est l'histoire d'un collectionneur d'animaux vivants qui ne veut surtout pas de bâtards. L'animal doit être vierge à sa façon. Les femelles ne doivent pas avoir été couvertes. Et c'est vraiment un texte extraordinaire. Et il est tellement amoureux de la perfection de ses roitelets qu'il ne cesse de les laver dans de l'eau chaude, si bien qu'il finit par leur abîmer les pattes et que les oiseaux, les roitelets finissent par mourir. Et c'est une nouvelle impressionnante, à la fois de cruauté et de désir du parfait, et sur la mort aussi. Il vampirise le lecteur dans ses propres fantasmes. C'est ça qui est tout à fait intéressant. Dans Bestiaire, vous avez une explication de ses rapports avec les femmes, à travers l'animal. Donc, par exemple, il écrit, là, il y a un dialogue entre celui qui... garde les animaux, qui veut les acheter, etc. Et quelqu'un d'autre, et il dit « Ce n'est pas possible non plus pour moi de me marier, car je préfère les femmes froides et qui le restent. Il m'est plus facile de leur parler en affectant de ne pas remarquer leur indifférence. Je prends toujours comme domestiques des filles à l'air sévère. » Et l'autre lui répond « Voilà donc pourquoi tu élèves des animaux. » « Les animaux ne sont pas indifférents, » répond-il. « En vérité, je ne pourrais supporter la solitude si je n'avais ces présences. » Alors ça, c'est très intéressant parce que ce qu'il veut, au fond, c'est des présences qui sont des présences absentes, des présences d'un autre monde. Ça, c'est... D'ailleurs, il y a un très grand, immense goût de la nature qui s'exprime dans sa passion des bonsaïs, des pruniers, dans Élégie, qui est un autre texte. Donc, pour lui, le dialogue se fait avec quelqu'un qui ne lui répond pas sur le même plan.
Et Les Belles Endormies, donc, c'est l'un des derniers grands romans. Donc, c'est 1960-1961, également publié donc en feuilleton. Les Belles Endormies, qui raconte cette histoire tout à fait particulière d'un protagoniste, un vieillard appelé Gauthier, qui décide de passer quelques nuits dans une maison de passe qui lui offre le contrat suivant, dormir avec de belles endormies, très jeunes, très belles, à condition de ne pas les toucher.
Vierge aussi.
Vierge également. Le roman tout entier est, là encore, dans cette sorte de répétition d'un monde qui joue ici entre le rêve, le sommeil, la mort, et d'une certaine manière est, me semble-t-il, exemplaire, tout à fait essentiel pour comprendre l'œuvre de Kawabata.
Il y a là une sorte d'impossibilité d'un amour charnel vécu et en même temps une sorte de sentiment très incestueux d'un homme plus âgé pour une très jeune fille qui peut-être évoque pour lui sa jeune mère morte. Je pense que c'est un texte assez incestueux, comme le sera le livre admirable qui s'appelle Le grondement de la montagne. Alors, Mishima avait été très, très impressionné par ce livre et il avait écrit, en effet, « Une telle œuvre n'obéit pas à la clarté, à l'ouverture, mais à une concentration étranglée. La densité remplace la limpidité et la pureté. » Ailleurs, j'ai comparé, écrit Mishima, les belles endormies à un sous-marin dans lequel les gens se trouvent piégés et où l'air vient progressivement à manquer. Et encore, il écrit, l'érotisme ne vise pas ici à une complétude, car l'érotisme dans sa complétude s'accompagne d'humanité. La luxure, elle, s'attache inévitablement à des fragments, et privées de subjectivité, les belles endormies sont elles-mêmes des fragments d'êtres humains qui poussent le désir au summum de l'intensité. Paradoxalement, un cadavre exquis, dépourvu de toute trace de conscience, engendre puissamment le sentiment de la vie.
Et vous trouvez, Diane de Margerie, que les belles endormies donnent puissamment le sentiment de la vie ?
Eh bien, elles donnent le sentiment de la vie parce qu'on sent qu'il y a une vie souterraine, inconsciente, qui circule sous ces masques blancs.
Mais ce n'est pas un sommeil naturel.
Non, c'est un sommeil drogué, oui. Artificiel.
Et qui aboutit d'ailleurs à la mort d'une des jeunes filles.
Oui, c'est la cruauté intense de Kawabata. Mais comme je disais, comme pour lui, la mort est l'accompagnement de la vie, c'est presque une solution naturelle.
Mais pourquoi toujours la cruauté vis-à-vis des femmes, essentiellement des femmes?
Peut-être parce que... Ça, je ne sais pas très bien. Je pense que c'est parce que pour lui, la femme est quelque chose de complètement étranger, qui ne lui est familier précisément que dans l'absence ou la mort, ou la pureté totale, ou la virginité frustrée. Donc, c'est également un rappel de ce qui s'est passé dans son enfance.
Au Japon, la mort est très présente, partout. Il y a une relation avec la mort qui est tout à fait naturelle, non seulement dans la littérature, mais dans la vie culturelle japonaise, dans la vie même quotidienne japonaise.
Et qui passe chez Kawabata par la contemplation de la nature, très souvent dans ses romans.
Voilà, bon, la nature, est, bien sûr, c'est aussi une question culturelle. Au Japon, la nature est extrêmement importante dans la poésie et dans la littérature romanesque, probablement chez Kawabata tout particulièrement. Pour en revenir à Pays de Neige, qui est le livre le plus naturel, entre guillemets, enfin, ou la nature, même grondement dans la montagne, mais où, pas seulement le passage des saisons, mais tout ce qui, dans la nature, est symbolique. Quoi. À la fin de Pays de Neige, il y a ce moment extraordinaire où le personnage regarde le ciel et voit la Voie lactée. C'est la dernière phrase, il a trébuché. Il reprend son équilibre, il regarde le ciel, il a l'impression que la Voie lactée se déverse en lui. C'est tout ce que dit Kawabata. Bon, la Voie lactée est au Japon accompagné de beaucoup, beaucoup de mythologie. C'est très, très signifiant hein, dans l'imaginaire japonais. Mais ce qui est important, en l'occurrence, c'est simplement la contemplation du ciel, qui est une réponse, évidemment, à des questions intérieures, des questions psychologiques intérieures. C'est pour ça que ça prend autant de force. Ou quand il regarde la neige, ou quand il regarde les érables, ou quand il regarde l'incendie, tous ces éléments sont chaque fois amenés comme des réponses à des crises du personnage. Chez Kawabata, en effet, la nature est en écho et comme une réponse à ses tourments psychologiques.
Et la mort de Kawabata, Cécile Sakai, vous pensez que il a pu considérer qu'il était arrivé au bout de sa création ?
Kawabata est mort en 1972. Il s'est donc suicidé au gaz de façon extrêmement discrète, sans laisser de testament, seul, dans une sorte de studio d'écriture qu'il avait au bord de la mer et en dehors de sa maison qu'il avait donc à Kamakura où il vivait donc avec son épouse. On a eu l'impression que c'était presque une mort naturelle. Le contraste était frappant avec la mort précédente de son ami et protégé Mishima, bien entendu, novembre 1970, ce spectaculaire seppuku devant les forces d'autodéfense japonaises. Mort dont on sait que Kawabata ne l'a pas du tout comprise, car il en a été extrêmement affecté. Il considérait que Mishima devait prendre sa relève. Kawabata était fatigué, je pense. Fatigué de cela, fatigué aussi dès les années 60 d'une œuvre qui était finalement vraiment construite. On peut dire que la plus grande œuvre de la dernière période, ce sont Les Belles Endormies, c'est 1960-1961. Qu'a fait Kawabata entre 1961 et 1972 ? Il s'est surtout énormément dépensé pour faire reconnaître la littérature japonaise dans le monde. Il a fait des conférences partout. Il était le président du pen club japonais pendant de longues années et a joué une sorte de rôle d'éminence grise pour soutenir les jeunes écrivains.
Kawabata était très dépressif. Enfin, il allait de dépression en dépression. Il avait une addiction aux somnifères, aux médicaments.
Oui, oui, mais c'est sûr, c'était quelqu'un de... On dit d'ailleurs aussi que son suicide était lié au sentiment qu'il avait de ne pas mériter le prix Nobel. C'était un problème. Cet honneur qui lui a été donné, qu'il avait le sentiment de ne pas mériter. Mais bon, ça, c'est aussi un type de raisonnement typiquement japonais. Et donc, c'était probablement quelqu'un qui ne pouvait pas avoir complètement de bonheur ou de satisfaction, même à travers son œuvre. Je ne parle pas de sa vie privée, mais même à travers son œuvre.
Le disciple zen reste assis de longues heures, silencieux, immobile, les yeux fermés. Bientôt, il pénètre un état d'impassibilité, libéré de toute conception, de toute pensée. Il quitte le soi pour entrer dans le domaine du rien. Ceci n'est pas le rien ou le vide occidental, plutôt le contraire. Un univers de l'esprit où tout communique en toute liberté avec tout.
Yasunari Kawabata, une émission de Françoise Esteb, avec René de Secati, écrivain, traducteur du japonais, Diane de Margerie, écrivain, qui a préfacé la correspondance Kawabata Mishima aux éditions Albin Michel, Cécile Sakai, professeure à l'Université Paris 7, traductrice, auteure notamment de Kawabata, le clair-obscur, au PUF, Archivina Martine Auger, extrait du documentaire d'Antigone Schilling et Didier Deleskevitch, Le maître des funérailles. Texte lu par David Jesselson. Prise de son Yves Lehors, Didier Sudre. Mixage Michel Mestre. Réalisation Nathalie Salle. Thank you.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Martin Kénéen avec la complicité de Claire Poinsignon. Commentaires, podcasts, réécoute sur franceculture.fr. La semaine prochaine, samedi et dimanche à 17h, Une vie, une œuvre vous plongera dans le noir pour un week-end polar à la rencontre de P.D. James et Chester Himes. Mais pour l'heure, sur France Culture, vous avez rendez-vous avec le journal de la rédaction.